7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le petit journal de l'international. Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On part tout de suite au Maroc, Mickaël, où 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes après-demain, vendredi.
Oui, élections communales et régionales, et surtout Nicolas, scrutin à valeur de test démocratique avant les législatives de la fin 2016. Et les élections au Maroc, vous le savez, c'est toujours un peu compliqué vu de France. Alors justement, on va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir avec notre correspondante à Rabat, Anna Ravix, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelles sont d'abord les grandes forces en présence et du coup, Anna, quel est l'enjeu principal?
Alors, vous l'avez dit, ce genre d'élection communale, ça n'est jamais simple. Et là, typiquement, les Marocains vont devoir élire 24 655 membres de conseils communaux. Donc nous, on va simplifier un peu et on va se concentrer sur une circonscription de la capitale qui résume bien le débat national. On va parler des quartiers de Lagdal et de Hayariyad à Rabat. Et on va y retenir les trois listes principales qui s'affrontent. Un, la liste du parti islamiste au pouvoir, le PJD. Deux, le parti Authenticité et Modernité, le PAM, qui est un grand parti de l'opposition, dont on entend régulièrement dire qu'il est plutôt proche du palais. Et troisième liste, celle de la Fédération démocratique de gauche. Ce dernier parti, nous étions à son meeting hier soir. Il se présente comme une troisième voie, ni les islamistes, ni le palais, comme le soutient Omar El-Hiani. Il est candidat sur la liste de cette circonscription.
Au-delà de la première voie, qui est vraiment la voie du Makhzen, de l'institution au Maroc, la deuxième voie qui est celle des islamistes, aujourd'hui on est en train de reconstruire la troisième voie qui est celle d'une gauche démocratique qui lutte pour l'égalité sociale et une monarchie parlementaire au Maroc.
Anna, ce candidat parle de la voie du Makhzen, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors exactement, c'est difficile à dire car le Makhzen, c'est le nom qui désigne l'influence du pouvoir du palais dans les institutions marocaines. Donc c'est pas toujours très simple de l'identifier précisément. En tout cas, la troisième voie dont parle Omar, entre ce Makhzen et les islamistes, il estime qu'elle est un héritage direct du mouvement du 20 février, le printemps arabe marocain de 2011. Là aussi, petite explication nécessaire, je laisse faire Nabila Nib, c'est la présidente de la Fédération démocratique de gauche.
Le mouvement du 20 février, c'était hier, quoi. C'était des jeunes qui s'étaient présentés avec une plateforme assez sérieuse dans laquelle ils demandaient des réformes profondes pour notre pays, notamment des réformes politiques pour aller vers la démocratie. Ils demandaient plus de justice, plus de liberté, plus de respect, etc. Ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir, et nous avec eux. Parce qu'on s'attendait à avoir une constitution démocratique pour la première fois qui respecte le fondement même des constitutions démocratiques, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Ça n'a pas été fait.
Et justement, Anna, peut-on dire que le pari de ce parti, c'est grosso modo un printemps arabe institutionnel?
Oui, c'est un peu le cas. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et il a réussi justement à séduire pas mal d'anciens militants du 20 février. J'en ai rencontré hier. Ils refusaient de voter jusqu'alors car ils considéraient que les élections marocaines étaient une mascarade. Mais cette fois, ils vont voter pour ce parti qui milite très clairement pour une monarchie parlementaire. Mais attention, tous les anciens militants du printemps arabe marocain n'ont pas été séduits par cette démarche institutionnelle. Certains s'apprêtent justement à manifester devant le Parlement de Rabat dans quelques minutes pour appeler au boycott des élections.
Voilà, élections communales et régionales donc au Maroc ce vendredi et en direct de Rabat, Anna Ravix. Merci Anna.
Et direction maintenant l'Italie avec l'ENI, le géant italien de l'énergie qui fanfaronne depuis trois jours, Mickaël.
Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Depuis dimanche dernier, le groupe pétrolier fait le tour de tous les plateaux pour fièrement annoncer qu'il a découvert en Méditerranée, dans les eaux territoriales égyptiennes, un immense gisement de gaz naturel. Mathilde Imberti, bonsoir en direct de Rome.
Bonsoir.
Alors est-ce, comme le prétend le chien à six pattes, hein, l'autre nom de l'ENI, est-ce une découverte si exceptionnelle que cela?
Ah oui, c'est une découverte extraordinaire, la plus grande découverte de gaz jamais réalisée en Égypte et en mer Méditerranée, selon l'ENI. Alors en potentiel, ce gisement qui a été baptisé Zohr représente 850 milliards de mètres cubes. C'est la garantie pour l'Égypte de couvrir ses besoins en gaz naturel pendant des décennies. Les premiers forages sont prévus début 2016 et les premières livraisons de cargaisons de gaz en 2017 au mieux. Alors ce n'est pas une découverte fortuite évidemment, l'ENI est implanté en Égypte depuis 60 ans. Et elle détient 100% de la licence d'exploitation du site sur lequel a été découvert ce gisement. Elle avait remporté l'appel d'offres pour exploiter ce site début 2014.
Et pour l'Italie, Mathilde, ces découvertes vont bien au-delà d'une promesse énergétique.
Et oui, l'ENI est bien plus qu'un géant industriel, c'est un acteur en fait de la politique étrangère italienne. Jean-Pierre Darnis nous l'explique, il est chercheur à l'Institut des Affaires internationales de Rome.
Alors l'ENI a toujours été une entreprise fondamentale pour la politique étrangère italienne. Certains disent même que l'Italie n'a pas de politique étrangère hors celle de l'ENI, ce qui est déjà considérable. L'Égypte n'est pas la priorité numéro un de l'Italie, mais c'est un pays qui compte dans ce contexte de stabilisation. Si je peux faire un petit aparté, l'Italie n'a pas peut-être d'avions aussi, disons, nombreux à vendre dans ce contexte-là, mais par ses opérations de gaz et d'énergie, elle réussit à s'implanter sur le scénario. Et donc l'Égypte rentre dans ce dessin-là.
L'investissement économique et la politique étrangère, on entend, sont liés. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, ne s'en cache pas. Cette découverte de gaz naturel, dit Renzi, nous donne raison d'avoir investi dans ce pays, l'Égypte, au niveau économique et politique. Car avec cette découverte, l'Égypte va importer moins de gaz naturel, va remplir ses caisses. Et une Égypte plus forte économiquement sera en principe une Égypte plus solide politiquement. Pour l'Italie, c'est un enjeu majeur. L'Égypte est un partenaire dans la lutte contre le terrorisme, sa priorité. Du moment.
Mathilde Imberti en direct de Rome, merci beaucoup. Allez, pour finir, Nicolas, je suis sûr que vous vous souvenez de ça.
J'y ai dit bien. Vous allez me dire pourquoi j'y ai dit bien.
Alors, Coluche, la chanson canadienne, évidemment. Eh bien, une autre chanson canadienne fait l'actualité en ce moment dans la belle province, et c'est celle-là. Who controls our parliament? Alors, je vous traduis sommairement. Qui contrôle notre Parlement? Harperman. Qui a torpillé la CBC, la radio télé canadienne? Harperman. Pas de respect pour l'environnement? Qui ça? Harperman. Et pour toi, il est temps de partir. Bref, chanson anti-Stephen Harper, le premier ministre canadien au pouvoir depuis 9 ans. Chanson écrite et interprétée par Tony Turner, qu'on entend. C'est un éminent scientifique du ministère canadien de l'environnement.
Pas mal.
20 ans qu'il travaille là-bas. Mais la chanson n'a pas du tout plu au premier ministre, qui vient d'avoir la tête du scientifique, chercheur, chanteur, tout simplement viré. Pas beaucoup d'humour, Harperman. À demain.